Chapitre 3. Le lendemain, à 8 heures, je suis assis devant la Vénus, un crayon à la main. Je recommence pour la 20e fois à dessiner la tête de la statue, sans arriver à donner son expression. Monsieur de Péréorade va et vient autour de moi, me donne des conseils, puis met des roses au pied de la statue et adresse des vœux de bonheur pour le couple qui va vivre chez lui. À 9 heures, il rentre pour finir de se préparer. C'est alors qu'apparaît Monsieur Alphonse, magnifique avec son costume neuf, ses gants blancs et ses beaux souliers. Il regarde mon dessin et dit « Vous ferez le portrait de ma femme ? Elle est jolie aussi. » À ce moment, commence sur le terrain d'à côté une partie de jeu de paume. Monsieur Alphonse se met aussitôt à regarder. Et moi, fatigué car je n'arrive pas à dessiner ce visage diabolique, je me mets aussi à regarder les joueurs. Parmi eux, il y a des Espagnols, des Aragonais et des Navarrois qui sont arrivés hier et qui jouent très bien. Les Illois, malgré la présence et les conseils de Monsieur Alphonse, sont très vite battus par ces nouveaux champions. Les spectateurs nationaux sont consternés. Monsieur Alphonse regarde sa montre. Il est 9h30. Il a un peu de temps. Il enlève sa veste et ses chaussures, met des sandales et décide de défier les Espagnols. Je le regarde faire en souriant. Je suis un peu surpris. « Il faut soutenir l'honneur du pays, » dit-il. Alors je le trouve vraiment beau. Il est passionné. Il ne pense plus au mariage, ni sans doute à sa fiancée. Il retrousse les manches de sa chemise et se met à la tête de l'équipe vaincue. Je saute la haie et me place près du terrain, de façon à bien voir les deux camps. Monsieur Alphonse manque la première balle, ce qui surprend tout le monde. Il faut dire qu'un des Aragonais, un homme d'environ 40 ans, sec et nerveux, et qui semble être le chef des Espagnols, l'a lancé avec une incroyable force. Monsieur Alphonse jette sa raquette avec fureur.
« C'est à cause de cette maudite bague, » s'écrie-t-il, « qui me serre le doigt !»
Il enlève, avec difficulté, la bague de diamant qu'il va donner à sa future femme. Je m'approche pour la prendre, mais il est plus rapide et court à la Vénus, lui passe la bague à l'annulaire et reprend son poste à la tête de l'équipe d'île. Il est pâle, mais calme et décidé. Dès cet instant, il ne fait plus une seule faute et bat les Espagnols. L'enthousiasme des spectateurs est un beau spectacle. Les uns poussent des cris de joie en jetant leur bonnet en l'air, d'autres lui serrent les mains.
« Nous ferons d'autres parties, mon brave, » dit Monsieur Alphonse à l'Aragonais d'un ton de supériorité.
Je trouve sa réflexion un peu désagréable. Le géant espagnol se sent insulté. Il pâlit, regarde sa raquette, puis dit tout bas,
« Tu vas me le payer. »
La voix de Monsieur de Péréorade trouble le triomphe de son fils. Mon hôte, étonné de voir son fils tout en sueur, lui crie d'aller vite se préparer. Monsieur Alphonse court à la maison, se lave le visage et les mains, remet son habit de cérémonie et ses belles chaussures, et 5 minutes après, nous partons pour Puygarrigue. Tous les joueurs de paume de la ville et un grand nombre de spectateurs nous suivent avec des cris de joie. Nous sommes enfin à Puygarrigue. Le cortège va se mettre en marche pour la mairie. Quand Monsieur Alphonse se frappe le front et me dit tout bas.
Oh, quel idiot! J'ai oublié la bague. Elle est au doigt de la Vénus. Oh, que le diable l'emporte! Ne le dites pas à ma mère. J'espère qu'elle ne verra rien.
Demandez à votre domestique d'aller la chercher, lui dis-je.
Il est resté à Ile. Et puis non. Il risque d'en parler et tout le monde va se moquer de moi. Il m'appelait le mari de la statue. J'espère qu'on ne va pas la voler. Heureusement que l'idole fait un peu peur. Personne ne veut s'approcher d'elle. Bah, ce n'est pas grave. J'ai l'autre bague.
Les deux cérémonies, civile et religieuse, se déroule bien, et Mademoiselle de Puygarrigue reçoit l'anneau d'une jeune couturière de Paris, sans le savoir naturellement. Puis on se met à table, où on boit, mange et chante. Quand le déjeuner se termine, il est 4 heures. Les hommes vont se promener dans le parc, qui est magnifique. Et les femmes vont avec la jeune mariée admirer ces splendides cadeaux. Puis la mariée va se changer, et vers 8 heures, on se met en route pour Hill. Là, le dîner nous attend. Et quel dîner! Tout n'est que rire et plaisanterie. Le marié, qui a disparu un instant avant de se mettre à table, est pâle et d'un sérieux de glace. Il boit à chaque instant un vin très fort. Je suis à côté de lui et me sens obligé de l'avertir. Faites attention à ce vin, il peut vous faire du mal. Il me pousse alors le genou et me dit très bas. Quand on va quitter la table, j'aimerais vous dire 2 mots. Son ton solennel me surprend. Je le regarde plus attentivement et je remarque qu'il a mauvaise mine. Je lui demande « Vous vous sentez mal ?»« Non. » Et il se remet à boire. Les cris, les rires et les chants continuent. Puis M. de Péréorade réclame le silence et commence à parler.
« Que se passe-t-il, mes amis? Le vin que j'ai bu me fait voir double. Il y a 2 Vénus ici. »
Le marié tourne brusquement la tête d'un air effrayé qui fait rire tout le monde.
« Il y a 2 Vénus sous mon toit, » poursuit son père. « L'une, je l'ai trouvée dans la terre. L'autre, descendue du ciel, vient partager notre vie. Mon fils, choisis celle que tu préfères, la romaine ou la catalane. Le vilain prend la catalane, c'est la meilleure. La romaine est sombre, la catalane est lumineuse. La romaine est froide. La catalane enflamme tout ce qui l'approche. »
Cette fin déclenche un hourra, des applaudissements bruyants et des rires sonores. Autour de la table, il n'y a que 3 visages sérieux, ceux des mariés et le mien. J'ai un grand mal de tête. Et puis, je ne sais pourquoi, les mariages me rendent triste. Et celui-ci, en plus, ne me plaît pas. Il est presque minuit. On passe dans le salon pour assister au départ de la mariée qui doit être bientôt conduite à sa chambre. Monsieur Alphonse m'entraîne alors près d'une fenêtre et me dit sans me regarder. « Vous allez vous moquer de moi. Mais je ne sais pas ce que j'ai. Je suis ensorcelé. Le diable m'emporte. Vous avez bu trop de vin, mon cher monsieur Alphonse, » lui dis-je. « Je vous ai prévenu. » « Oui, peut-être. Mais c'est quelque chose de bien plus terrible. » Il a la voix entrecoupée. J'ai l'impression qu'il est vraiment ivre. « Vous savez, ma bague ?» poursuit-il après un silence. « Eh bien, on l'a prise ?»« Non. »« Alors, vous l'avez ?»« Non, je ne peux pas l'enlever du doigt de cette diable de Vénus. » »« Bon. » Vous n'avez pas tiré assez fort. Si, mais la Vénus, elle a serré le doigt. Il me regarde fixement d'un air de fou et s'appuie au mur pour ne pas tomber. Quelle histoire, lui dis-je. Vous l'avez trop enfoncée. Demain, prenez un outil pour la récupérer, mais faites attention de ne pas abîmer la statue. Non, vous dis-je. Le doigt de la statue est replié. Elle serre la main, vous comprenez ? C'est ma femme, apparemment, puisque je lui ai donné ma bague. Elle ne veut plus la rendre. J'ai un instant la chair de poule. Puis je me dis que le pauvre homme est ivre et toute émotion disparaît. Vous connaissez bien les statues, monsieur, ajoute le marié d'un ton lamentable. Elles ont peut-être un ressort, quelque chose qui permet cela. Pouvez-vous aller voir ? Bien sûr, dis-je. Venez avec moi. Non. Allez-y seul. Je sors du salon. Le temps a changé pendant le dîner et la pluie commence à tomber avec force. Je suis sur le point de demander un parapluie
lorsqu'une pensée m'arrête.
Je suis bien stupide, me dis-je, d'aller vérifier ce que me dit un homme ivre. Je n'ai pas envie d'attraper un bon rhume.
De la porte, je jette un coup d'œil sur la statue, puis je monte dans ma chambre sans rentrer dans le salon. Je me couche, mais le sommeil est long à venir. Je revois toutes les scènes de la journée. Je pense à cette jeune fille si belle et si pure, mariée à un homme ivre. Rien n'est plus horrible qu'un mariage de raison. Pendant toutes ces réflexions, j'entends des allées et venues dans la maison, des portes s'ouvrir et se fermer, des voitures partir, puis des pas dans l'escalier. La fête est finie. Le silence règne depuis quelque temps lorsque j'entends des pas lourds qui montent l'escalier. Les marches de bois craquent fortement.
Quel grossier personnage ! M'écriai-je en pensant à Alphonse. Il va sûrement tomber dans l'escalier.
Tout redevient tranquille. Je prends un livre pour me changer les idées, mais il est tellement ennuyeux que je m'endors à la troisième page.